Il y a des jours où c'est du mélange, et il y a des jours où c'est de la terre amère. Aphorisme rakien. Dans sa troisième année chez les prêtres de Rakis, la jeune Shiana était allongée à plat ventre au sommet d'une haute dune incurvée, scrutant l'horizon lointain du matin où elle entendait une sourde rumeur caractéristique. L'air du désert était ourlé de vapeurs irréelles, figées par une lumière d'argent. Le froid de la nuit était encore perceptible. Shiana savait que les prêtres l'observaient, du haut de leur abri en forme de tour, 2 kilomètres derrière elle. Mais elle s'en souciait peu. C'était le tremblement du sol sous son corps qui retenait présentement toute son attention. « Il est énorme, » se dit-elle. « Au moins 70 mètres. Il doit être magnifique. » Le disti gris était souple et lisse contre sa peau. Rien à voir avec le tissu grossier et rapiécé de celui qu'elle portait avant d'être prise en charge par les prêtres. Elle se réjouissait d'avoir ce disti, ainsi que la riche cape blanche et pourpre qui le couvrait, mais elle était surtout heureuse à l'idée d'être ici. En de tels moments, elle se sentait envahie par quelque chose d'exaltant et de dangereux. Les prêtres ne comprenaient rien à ce qui se passait ici. Elle le savait très bien, c'était des lâches. Elle regarda par-dessus son épaule en direction de la tour et vit les éclats de soleil reflétés par les objectifs. C'était une enfant précoce de 11 années standard, au teint sombre et aux cheveux bruns par endroits éclaircis par le soleil. Elle imaginait très clairement ce que les prêtres voyaient dans leurs instruments grossissants. « Il me voit en train de faire ce qu'aucun d'eux n'oserait faire. Il me voit au milieu du chemin de Shaitan. Je suis toute petite au milieu des sables, et Shaitan est très gros. Ils l'aperçoivent déjà. » D'après le crissement qu'elle entendait, elle savait qu'elle n'allait pas tarder à apercevoir à son tour le ver géant. Elle ne désignait pas le monstre qui s'approchait sous le nom de Shai-Hulud, le dieu des sables, comme le faisaient les prêtres qui chaque matin récitaient leur litanie en l'honneur de la perle de conscience de l'étau 2 renfermée dans chaque mètre annelé du désert. Pour elle, les vers géants étaient simplement « ceux qui m'ont épargné » ou « Shaitan ». À présent, il lui appartenait. Cette relation avait été instaurée un peu plus de 3 ans auparavant, durant le mois d'Igat de l'ancien calendrier, le mois où elle avait eu ses 8 ans. Son village était très pauvre. Il faisait partie de ces avant-postes construits bien en dehors des barrières de sécurité que représentaient les kanats et les canaux circulaires de Kin. Seul un fossé de sable plus ou moins humide protégeait ces villages. Shaitan se tenait généralement à l'écart de l'eau, mais le vecteur détruit avait vite fait d'absorber toute trace d'humidité. Le village était un misérable assemblage de cabanes et de taudis autour des 2 petits pièges à vent qui fournissaient l'eau de boisson. Il fallait chaque jour, pour reconstituer la barrière humide, gaspiller l'éventuel surplus d'eau précieuse recueillie par ces pièges à vent. Ce matin-là, comme aujourd'hui, le froid de la nuit était encore piquant dans ses narines et dans ses poumons, et l'horizon était enrobé d'une brume fantôme. La plupart des enfants du village s'étaient égayés dans le désert pour y chercher, comme à l'accoutumée, des débris de mélange que Shaitan semait parfois sur son passage. 2 gros vers avaient été entendus cette nuit à proximité. Le mélange, malgré l'effondrement des cours sur le marché moderne, pouvait leur payer les briques vernissées avec lesquelles ils construiraient leur 3e piège à vent. En même temps qu'ils cherchaient l'épice, les enfants étaient automatiquement attentifs aux moindres signes susceptibles de révéler la présence sous les sables d'un ancien siège fortifié du temps des Fremen. Ce n'était plus aujourd'hui que des ruines, mais leurs murailles rocheuses procuraient un abri sûr contre Shaitan. De plus, certaines de ces ruines avaient la réputation de cacher des magots d'épices. Tous les habitants des villages rêvaient de découvrir un jour un tel trésor. Shiana, vêtue de son disti rapiécé et de sa cape de pacotille, avait pris seule la direction du nord-est, où une lointaine colonne de vapeurs miroitantes marquait l'emplacement de la grande cité de Kin, prodigue de ses trésors d'humidité qui s'envolaient sous le soleil. Chercher des bribes de mélange dans le désert revenait principalement à se fier à son odorat. C'était une forme de concentration qui ne laissait que peu de place à l'écoute du crissement de sable annonçant l'approche de Shaitan. Les muscles des jambes devaient apprendre à se déplacer automatiquement selon un rythme brisé qui se fondait dans l'ensemble des bruits naturels du désert. Au début, Shiana n'avait pas entendu les cris. Ils étaient étroitement mêlés au bruit de saltation du sable que le vent soufflait sur les barakanes qui dissimulaient le village à sa vue. Mais progressivement, elle en avait pris conscience, et maintenant elle s'alarmait. De nombreuses voix qui hurlent. Oubliant la démarche non rythmée du désert, elle courut aussi vite que ses jambes le permettaient, escalada la face abrupte et glissante de la barakane, et porta son regard en direction du bruit angoissant. Elle arrivait juste à temps pour voir la cause des derniers cris. Le vent et les truites des sables avaient asséché un arc considérable du fossé qui protégeait le village à son extrémité opposée. De l'endroit où elle était, elle distinguait la brèche à la différence de couleur. Un ver sauvage avait pénétré à l'intérieur. Il décrivait des cercles fous à la limite de la partie encore humide. Sa gueule gigantesque environnée de flammes sombres balayait les gens et les taudis en une spirale qui se rétrécissait rapidement. Shiana vit les derniers survivants massés au centre de cette dévastation, dans un espace jonché de débris d'habitation et de pièges à vent. Sous ses yeux, certains tentèrent de s'échapper vers le désert. Elle reconnut son père parmi ceux qui couraient. Il n'y eut aucun survivant. La gueule énorme les engloutit tous, avant de raser ce qu'il restait du village. Seule une petite colonne de fumée montant du sable noirci indiquait l'endroit où s'était dressé le minuscule village qui avait osé usurper une partie du territoire de Shaitan. Ce lieu était maintenant aussi dépourvu de signes de présence humaine qu'au temps où personne ne l'avait encore foulé. Shiana prit une inspiration saccadée par le nez pour préserver l'humidité de son corps, comme tous les vrais enfants du désert avaient appris à le faire. Elle scruta l'horizon à la recherche des autres enfants, mais les traces laissées par Shaitan formaient de grandes boucles de l'autre côté du village, et il n'y avait plus la moindre silhouette humaine en vue. Elle poussa le cri de rassemblement perçant qui portait loin dans l'air sec du désert. Aucune réponse ne lui revint. Toute seule. Elle avança, comme en transe, le long de la crête de sable, vers l'endroit où avait été son village. À mesure qu'elle s'en rapprochait, une forte odeur de cannelle emplissait ses narines, apportée par le vent qui balayait toujours la crête des dunes. Elle comprit ce qui s'était passé. Le village, par malheur, avait été bâti sur une poche d'épices en gestation. Lorsque cette formidable masse enfouie sous les sables était arrivée à maturité, explosant pour former le mélange, Shaitan avait accouru. Tous les enfants du désert savaient que Shaitan était incapable de résister à une explosion de masse d'épices. La fureur et le désespoir gagnèrent Shiana. Sans se rendre compte de ce qu'elle faisait, elle dévala le versant de la dune en direction de Shaitan et surgit derrière lui au moment où il s'en retournait par la brèche qui lui avait permis de franchir le fossé humide. Sans hésiter, elle poursuivit sa course le long de sa queue, s'y hissa et se remit à avancer sur l'énorme dos annelé. Arrivée sur la bosse qui précédait la tête, elle se mit à genoux et martela des poings la surface rigide. Le ver s'arrêta. Sa fureur soudain transformée en terreur, Shiana cessa de tambouriner sur le ver. Alors seulement, elle se rendit compte qu'elle était en train de hurler. Un atroce sentiment de solitude désemparée l'étreignit. Elle ne comprenait pas comment elle était arrivée ici, mais elle savait où elle se trouvait et elle était morte de peur. Le ver demeurait immobile sur le sable. Shiana ne savait pas ce qu'elle devait faire. D'un moment à l'autre, Shaitan pouvait se laisser rouler sur le dos et l'écraser. Ou bien il pouvait s'enfouir. Et elle resterait à la surface où il pourrait l'attraper aisément. Brusquement, le long tremblement se propagea sur toute la longueur du monstre. Depuis l'extrémité de sa queue jusqu'à la position qu'occupait Shiana derrière sa tête. Le ver commença à avancer. Il décrivit un arc de cercle large et prit de la vitesse en direction du nord-est. Shiana se pencha en avant et s'agrippa à la crête principale de l'anneau le plus proche. Elle avait peur que le ver ne s'enfonce soudain dans le sable. Que ferait-elle alors? Mais Shaitan ne semblait pas avoir envie de s'enfuir. À mesure que les minutes passaient et que leur course à travers le désert demeurait strictement rectiligne, elle retrouvait peu à peu ses capacités de réflexion. Ce qu'elle était en train de faire n'était pas entièrement nouveau. Les prêtres du dieu fractionné interdisaient formellement cette pratique, mais l'histoire écrite, tout comme l'histoire orale, racontait que les anciens Fremen avaient coutume de se déplacer ainsi. Ils se tenaient debout sur le dos de Shaitan en s'aidant de bâtons flexibles terminés par des crochets. Les prêtres avaient décrété qu'il en était ainsi du temps où Leto II ne partageait pas encore sa conscience avec le dieu du désert, mais qu'il était à présent défendu de se livrer à des actes susceptibles de profaner les restes éparpillés de l'empereur-dieu. À une allure stupéfiante, le ver emportait Shiana vers l'horizon miroitant où la cité de Kin était comme un mirage voilé par la brume. Sa cape usée battait contre la surface mince de son distir rapiécé. Ses doigts lui faisaient mal à l'endroit où elle agrippait la crête de l'anneau géant. L'odeur mêlée de pierre brûlée, d'ozone et de cannelle provenant des échanges thermiques du ver assaillait ses narines selon les sautes de vent. Les prêtres vont me voir et ils seront fâchés, se dit-elle. Elle apercevait déjà les murs bas qui marquaient l'emplacement des premiers canats et plus loin la courbe d'un aqueduc au ras du sol. Dominant ces ouvrages, se dressaient les murs de jardin en terrasse et les hautes structures des pièges à vent géants. Puis, il y avait les bâtiments du temple, entourés de leurs propres canaux. Une journée de marche à travers le désert en un peu moins d'une heure. Ses parents et ses voisins du village avaient plusieurs fois accompli ce voyage pour acheter des marchandises ou participer aux danses. Mais Shiana ne les avait accompagnés qu'à deux reprises. Elle se souvenait surtout des danses et des manifestations de violence qui s'ensuivaient. Les dimensions de Kin l'impressionnaient terriblement. Tous ces bâtiments, tout ce monde. Shaitan n'aurait jamais pu dévaster un endroit pareil. Mais le ver fonçait droit devant lui, comme s'il avait l'intention de bondir par-dessus le canat et l'aqueduc. Shiana voyait la cité devenir de plus en plus grosse. La fascination l'emportait sur la terreur. Shaitan n'allait jamais s'arrêter. Le ver géant ralentit brusquement et s'immobilisa. Les tubes d'aération du canat se trouvaient à moins de 50 mètres de sa gueule béante. Shiana aperçut les lourds effluves de cannelle et les grondements qui montaient de la fournaise intérieure de Shaitan. Elle comprit enfin que son voyage s'arrêtait là. Prudemment, elle lâcha l'anneau auquel elle s'agrippait. Elle se mit debout, s'attendant à être renversée d'un moment à l'autre si le ver se remettait en mouvement. Mais Shaitan attendait sans bouger. Lentement, Shiana se laissa glisser sur le sable et demeura là. Qu'allait faire le ver maintenant? Allait-il s'en aller? Elle avait vaguement l'intention de courir s'abriter dans le canat, mais Shaitan la fascinait. Glissante et trébuchant dans le lit de sable creusé par la masse du ver, elle contourna sa tête et fit face à la terrifiante gueule. Derrière les dents de cristal, les flammes roulaient d'avant en arrière en ronflant. Une terrible exhalaison d'épices fit reculer Shiana. La fureur qui lui avait fait dévaler la dune la première fois et grimper sur le dos du monstre s'empara à nouveau d'elle.
« Maudit Shaitan !»
s'écria-t-elle en brandissant un poing menu.
« Que t'avons-nous donc fait ?»
C'était exactement les mots qu'elle avait entendu prononcer par sa mère après la destruction d'un jardin de tubercules. Aucune partie d'elle-même ne s'était jamais interrogée sur ce nom, Shaitan, ni sur la fureur de sa mère. Elle était au fin fond de la misère rakienne et elle le savait. Les gens comme elle croyaient d'abord à Shaitan et ensuite à Shai-Hulud. Les vers étaient des vers, et parfois bien pis. Il n'y avait pas de justice au milieu des sables, il n'y avait que du danger. La pauvreté et la crainte des prêtres forçaient peut-être les siens à hanter le périlleux désert, mais même ainsi ils ne se départaient jamais de la détermination farouche qui avait toujours poussé les Fremen. Cette fois-ci, cependant, Shaitan avait gagné. Confusément, Shiana était en train de s'apercevoir qu'elle se trouvait sur le chemin du monstre. Ses pensées inachevées lui disaient qu'elle avait commis une folie. Bien plus tard, lorsque l'enseignement des sœurs lui aurait permis d'analyser ces moments, elle comprendrait que c'était la terreur de la solitude qui l'accablait et lui faisait souhaiter inconsciemment que Shaitan l'emporte en compagnie de ses morts. Un crissement monta de sous la masse du verre. Shiana étouffa un cri.